Chapitre 6. Monsieur désavoue Favras et le roi prête serment à la Constitution, un gentilhomme. Le lendemain de l'arrestation de monsieur de Favras, cette singulière circulaire courut par tout Paris. Le marquis de Favras, place royale, a été arrêté avec madame son épouse pendant la nuit du 24 au 25 pour un plan qu'il avait fait de soulever 30 000 hommes pour faire assassiner monsieur de Lafayette et le maire de la ville et ensuite de nous couper les vivres. Monsieur, frère du roi, était à sa tête. Signé Barros. On comprend la révolution étrange que fit, dans le Paris de 1790, si facile à l'émotion, une pareille circulaire. Une traînée de poudre allumée n'aurait pas produit une flamme plus rapide que celle qui s'éleva partout où passa le papier incendiaire. D'abord, il fut dans toutes les mains. 2 heures après, chacun le savait par cœur. Le 26 au soir, les mandataires de la commune, étant rassemblés en conseil à l'hôtel de ville et lisant l'arrêté du comité des recherches qui venait d'être rendu, l'huissier annonça tout à coup que monsieur demandait à être introduit. « Monsieur ?» répéta le bon bailli qui présidait l'assemblée. « Mais quel monsieur ?»« Monsieur, frère du roi !» répondit l'huissier. À ces mots, les membres de la commune se regardèrent les uns les autres. Le nom de « monsieur » était, depuis la veille au matin, dans toutes les bouches. Mais en se regardant, ils se levèrent. Bailly jeta un coup d'œil interrogateur autour de lui et, comme les réponses muettes qu'il lut dans les yeux de ses collègues lui parurent unanimes, « Allez annoncer à monsieur, dit-il, que, bien qu'étonné de l'honneur qu'il nous fait, nous sommes prêts à le recevoir. » Quelques secondes après, monsieur était introduit. Il était seul. Son visage était pâle et sa démarche, d'ordinaire assez mal assurée, était plus chancelante encore ce soir-là que de coutume. Par bonheur pour le prince, chaque membre de la commune ayant des lumières près de lui, sur l'immense table en fer à cheval où chacun travaillait, le milieu de ce fer à cheval demeurait dans une obscurité relative. Cette circonstance n'échappa point à monsieur qui parut se rassurer. Il promena un regard timide encore sur cette nombreuse réunion dans laquelle il trouvait au moins le respect à défaut de la sympathie. Et d'une voix tremblante d'abord, mais qui se raffermit par degrés, « Messieurs, dit-il, le désir de repousser une calomnie atroce m'amène au milieu de vous. Monsieur de Favras a été arrêté avant-hier par ordre de votre comité de recherche, et l'on répond aujourd'hui avec affectation que j'ai de grandes liaisons avec lui. » Quelques sourires passèrent sur les visages des auditeurs et des chuchotements accueillirent cette première partie du discours de monsieur. Il continua. « En ma qualité de citoyen de la ville de Paris, j'ai cru devoir vous instruire moi-même des seuls rapports sous lesquels je connaisse monsieur de Favras. » Comme on le devine bien, l'attention de messieurs les membres de la commune redoubla. On tenait à savoir de la bouche même de monsieur, quitte à en croire ce qu'on voudrait, quels étaient les rapports de son Altesse royale avec monsieur de Favras. Son Altesse royale continua en ces termes. « En 1772, monsieur de Favras est entré dans mes gardes suisses. Il en est sorti en 1775. Je ne lui ai point parlé depuis cette époque. » Un murmure d'incrédulité passa dans l'auditoire, mais un regard de bailli comprima ce murmure, et monsieur put rester dans le doute s'il était approbatif ou improbatif. Monsieur reprit. « Privé depuis plusieurs mois de la jouissance de mes revenus, inquiet sur des paiements considérables que j'ai à faire en janvier, j'ai désiré pouvoir satisfaire à mes engagements sans être à charge du trésor public. J'avais résolu en conséquence de faire un emprunt. Monsieur de Favras m'a été indiqué, il y a 15 jours environ, par monsieur de La Châtre, comme pouvant effectuer cet emprunt sur un banquier de Gênes. En conséquence, j'ai souscrit une obligation de 2 000 000, somme nécessaire pour acquitter mes engagements du commencement de l'année et pour payer ma maison. Cette affaire étant purement de finance, j'ai chargé mon intendant de la suivre. Je n'ai pas vu monsieur de Favras, je ne lui ai point écrit, je n'ai eu aucune communication avec lui. Ce qu'il a fait d'ailleurs m'est parfaitement inconnu. Un ricanement en partie des rangs du public prouva que tout le monde n'était pas disposé à croire ainsi sur parole à cette étrange assertion du prince, confiant, sans le voir, 2 millions de traites à un intermédiaire, surtout quand cet intermédiaire était un de ses anciens gardes. Monsieur rougit, et sans doute pressé d'en finir avec la position fausse qu'il s'était faite, il continua vivement. Cependant, messieurs, j'ai appris hier que l'on distribuait avec profusion dans la capitale un papier conçu en ces termes. Et monsieur lut alors, ce qui était bien inutile, tout le monde l'ayant dans la main ou dans la mémoire, le bulletin que nous avons cité tout à l'heure. À ces mots, monsieur, frère du roi, était à la tête, tous les membres de la commune s'inclinèrent. Voulait-il dire qu'ils étaient de l'avis du bulletin? Voulait-il dire simplement et purement qu'ils étaient au courant de l'accusation? Monsieur poursuivit. Vous n'attendez pas de moi sans doute que je descende jusqu'à me justifier d'un crime aussi bas, mais dans un temps où les calomnies les plus absurdes peuvent faire aisément confondre les meilleurs citoyens avec les ennemis de la Révolution, j'ai cru, messieurs, devoir au roi, à vous et à moi-même, d'entrer dans tous les détails que vous venez d'entendre, afin que l'opinion publique ne puisse rester un seul instant incertaine. Depuis le jour où, dans la seconde assemblée des notables, je me déclarais sur la question fondamentale qui divisait encore les esprits, je n'ai pas cessé de croire qu'une grande révolution était prête, que le roi, par ses intentions, ses vertus et son rang suprême, devait en être le chef, puisqu'elle ne pouvait pas être avantageuse à la nation sans l'être également au monarque. Enfin, que l'autorité royale devait être le rempart de la liberté nationale, et la liberté nationale la base de l'autorité royale. Quoique le sens de la phrase ne fût pas bien clair, l'habitude qu'on avait d'applaudir certaines combinaisons de mots fit que l'on applaudit celle-ci. Encouragé, monsieur haussa la voix et ajouta, s'adressant avec un peu plus d'assurance aux membres de l'assemblée, « Que l'on cite une seule de mes actions, un seul de mes discours qui ait démenti les principes que je viens d'émettre et qui ait montré que, dans quelques circonstances où j'ai été placé, le bonheur du roi, celui du peuple, ait cessé d'être l'unique objet de mes pensées et de mes vœux. Jusque-là, j'ai le droit d'être cru. Je n'ai jamais changé de sentiment ni de principe et je n'en changerai jamais. » Tout romancier que nous nous sommes faits, nous avons momentanément empiété sur l'histoire en donnant le discours filandreux de Son Altesse Royale dans toute son étendue. Il est bon que même les lecteurs de romans sachent qu'elle était à 35 ans le prince qui devait nous octroyer à 60 la charte ornée de son article 14. Or, comme nous ne voulons pas être plus injustes pour Bailly que pour Son Altesse Royale, nous donnerons la réponse du maire de Paris comme nous avons donné le discours de monsieur. Bailly répondit « Monsieur, c'est une grande satisfaction pour les représentants de la commune de Paris de voir parmi eux le frère d'un roi chéri, le roi restaurateur de la liberté française. » Auguste frère, vous êtes unis par les mêmes sentiments. Monsieur s'est montré le premier citoyen du royaume en votant pour le tiers état dans la seconde assemblée des notables. Il a été presque le seul de cet avis, avec un très petit nombre d'amis du peuple, et il a ajouté la dignité de la raison à tous ses autres titres au respect de la nation. Monsieur est donc le premier auteur de l'égalité civile. Il en donne un nouvel exemple aujourd'hui en venant se mêler parmi les représentants de la commune où il semble ne vouloir être apprécié que par ses sentiments patriotiques. Ces sentiments sont consignés dans les explications que monsieur veut bien donner à l'Assemblée. Le prince va au-devant de l'opinion publique. Le citoyen met le prix à l'opinion de ses concitoyens et j'offre à monsieur, au nom de l'Assemblée, le tribut de respect et de reconnaissance qu'elle doit à ses sentiments, à l'honneur de sa présence et surtout au prix qu'il attache à l'estime des hommes libres. Alors, comme monsieur comprit sans doute que, malgré le grand éloge que faisait Bailly de sa conduite, cette conduite serait diversement appréciée, il répondit avec cet air paterne qu'il savait si bien prendre dans les circonstances où il pouvait lui être utile. « Messieurs, le devoir que je viens de remplir a été pénible pour un cœur vertueux, mais j'en suis bien dédommagé par les sentiments que l'Assemblée vient de me témoigner, et ma bouche ne doit plus s'ouvrir que pour demander la grâce de ceux qui m'ont offensé. » On le voit, monsieur ne s'engageait ni n'engageait l'Assemblée. Pour qui demandait-il grâce? Ce n'était point pour Favras, car nul ne savait si Favras était coupable, et d'ailleurs, Favras n'avait point offensé monsieur. Non, monsieur demandait tout simplement la grâce de l'auteur anonyme de la circulaire qui l'accusait, mais l'auteur n'avait pas besoin de grâce puisqu'il était inconnu. Les historiens passent si souvent sans les relever près des infamies des princes, que c'est à nous, romanciers, à faire dans ce cas-là leur office, au risque de voir pendant un chapitre le roman devenir aussi ennuyeux que l'histoire. Il va sans dire que lorsque nous parlons d'historiens aveugles ou d'histoires ennuyeuses, on sait de quels historiens et de quelles histoires nous parlons. Monsieur avait donc pour son compte pratiqué une partie du conseil que lui avait donné son frère Louis XVI. Il avait renié monsieur de Favras, et comme on le voit aux éloges que lui avait décernés le vertueux Bailly, la chose avait obtenu un plein succès. Ce que, considérant sans doute le roi Louis XVI, il se décida de son côté à jurer fidélité à la Constitution. Un beau matin, l'huissier vint dire au président de l'Assemblée, qui était ce jour-là monsieur Bureau de Puzy, comme l'huissier de la commune était venu dire au maire par monsieur, que le roi, avec un ou deux ministres et trois ou quatre officiers, frappait à la porte du manège, comme monsieur avait frappé à la porte de l'hôtel de ville. Les représentants du peuple se regardèrent étonnés. Que pouvait avoir à leur dire le roi qui, depuis si longtemps, marchait séparé d'eux? On fit entrer Louis XVI et le président lui céda son fauteuil. À tout hasard, la salle éclata en acclamations. À part Pétion, Camille Desmoulins et Rat, toute la France était encore, ou croyait être encore, royaliste. Le roi avait éprouvé le besoin de venir féliciter l'Assemblée sur ses travaux. Il avait à louer cette belle division de la France en départements, mais ce qu'il ne voulait point tarder à exprimer surtout, car ce sentiment l'étouffait, c'était son amour ardent pour la Constitution. Le commencement du discours, n'oublions pas que noir ou blanc, royaliste ou constitutionnel, aristocrate ou patriote, pas un seul représentant ne savait où allait le roi, le commencement du discours causa quelques inquiétudes. Le milieu prédisposa les esprits à la reconnaissance, mais la fin, oh la fin, la fin porta les sentiments de l'Assemblée jusqu'à l'enthousiasme. Le roi ne pouvait résister au désir d'exprimer son amour pour cette constitution de 1791 qui n'était pas encore née. Que serait-ce donc quand elle aurait complètement vu le jour? Alors ce ne serait plus de l'amour que le roi aurait pour elle, ce serait du fanatisme. Nous ne citons pas le discours du roi, peste, il a 6 pages. C'est bien assez d'avoir cité le discours de monsieur qui n'en a qu'une et qui, cependant, nous a paru terriblement long. Tant il y a que Louis XVI ne parut pas trop prolixe à l'Assemblée qui pleura d'attendrissement en l'écoutant. Quand nous disons qu'elle pleura, ce n'est point une métaphore. Barnave pleurait, Lamette pleurait, Duport pleurait, Mirabeau pleurait, Barrère pleurait, c'était un véritable déluge. L'Assemblée en perdit la tête, elle se leva tout entière, les tribunes se levèrent, chacun étendit la main et fit serment de fidélité à cette constitution qui n'existait pas encore. Le roi sortit, mais le roi et l'Assemblée ne pouvaient se quitter ainsi. Elle sort derrière lui, elle se précipite, elle lui fait cortège, elle arrive aux Tuileries, la reine la reçoit. La reine, elle n'est pas enthousiaste, elle, la rude fille de Marie-Thérèse. Elle ne pleure pas, la digne sœur de Léopold. Elle présente son fils aux députés de la nation. « Messieurs, dit-elle, je partage tous les sentiments du roi, je m'unis de cœur et d'affection à la démarche que sa tendresse pour son peuple vient de lui dicter. Voici mon fils, je n'oublierai rien pour lui apprendre de bonne heure à imiter les vertus du meilleur des pères, à respecter la liberté publique et à maintenir les lois dont j'espère qu'il sera le plus ferme soutien. » Il fallait un enthousiasme bien réel pour qu'un pareil discours ne le refroidît point. Celui de l'assemblée était chauffé à blanc. On proposa de prêter à l'instant même le serment. On le formula, séance tenante, le premier de tous, le président fit entendre ses paroles. « Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. » Et tous les membres de l'assemblée, excepté un seul, levèrent la main, chacun à son tour, et répétèrent « Je le jure ». Les 10 jours qui suivirent cette bienheureuse démarche, qui venait de rendre la joie à l'assemblée, le calme à Paris, la paix à la France, s'écoulèrent en fêtes, en bals, en illuminations. On entendait de toutes parts que, serment prêté, on jurait partout, on jurait sur la grève, à l'hôtel de ville, dans les églises, dans les rues, sur les places publiques. On dressait des autels à la patrie, on y conduisait les écoliers, et les écoliers juraient comme s'ils étaient déjà des hommes et comme s'ils savaient ce que c'est qu'un serment. L'assemblée commanda un tédéum où elle assista en masse. Là, on renouvela sur l'autel, en face de Dieu, le serment déjà fait. Seulement, le roi n'alla point à Notre-Dame et par conséquent ne jura point. On remarqua son absence, mais on était si joyeux, on était si confiant que l'on se contenta du premier prétexte qu'il lui plut de donner. « Pourquoi donc n'avez-vous pas été au Tédéum? Pourquoi donc n'avez-vous pas juré sur l'autel comme les autres ?» demanda ironiquement la reine. « Parce que je veux bien mentir, madame, répondit Louis XVI, mais non point me parjurer. » La reine respira. Jusque-là, comme tout le monde, elle avait cru à la bonne foi du roi. Cette visite du roi à l'assemblée avait eu lieu le 4 février 1790. 12 jours plus tard, c'est-à-dire dans la nuit du 17 au 18 du même mois, en l'absence de monsieur le gouverneur du Châtelet, qui avait demandé et obtenu le jour même un congé pour se rendre à Soissons près de sa mère mourante, un homme se présenta à la porte de la prison, porteur d'un ordre signé de monsieur le lieutenant de police, lequel ordre autorisait le visiteur à conférer sans témoin avec monsieur de Favras. L'ordre était-il réel ou falsifié, c'est ce que nous n'oserions dire. Mais en tout cas, le sous-gouverneur, que l'on réveilla pour le lui soumettre, le reconnut bon, puisqu'il ordonna aussitôt que, malgré l'heure avancée de la nuit, le porteur de l'ordre fût introduit dans le cachot de monsieur de Favras. Après quoi, s'en rapportant à la bonne garde de ses porte-clés à l'intérieur et de ses sentinelles à l'extérieur, il alla se remettre au lit, pour y achever sa nuit si malencontreusement interrompue. Le visiteur, sous prétexte d'avoir, en tirant l'ordre de son portefeuille, laissé tomber un papier important, prit la lampe et chercha à terre, jusqu'à ce qu'il eût vu monsieur le sous-directeur du Châtelet entrer dans sa chambre. Alors il déclara qu'il croyait avoir laissé ce papier sur sa table de nuit et qu'en tout cas, si on le retrouvait, il priait qu'on le lui rendît au moment de son départ. Puis, donnant la lampe au porte-clés qui attendait, il l'invita à le conduire au cachot de monsieur de Favras. Le guichetier ouvrit une porte, fit passer l'inconnu, passa à son tour et referma la porte derrière lui. Il paraissait regarder cet inconnu avec curiosité, comme s'il s'attendait que, d'un moment à l'autre, celui-ci dût lui adresser la parole pour une importante communication. On descendit 12 marches et l'on s'engagea dans un corridor souterrain. Puis une seconde porte se présenta, que le guichetier ouvrit et referma comme la première. L'inconnu et son guide se trouvèrent alors sur une espèce de palier, ayant devant eux un second étage de marche à descendre. L'inconnu s'arrêta, plongea son regard dans la profondeur du corridor sombre, et lorsqu'il se fut assuré que l'obscurité était aussi solitaire que muette, « Vous êtes le porte-clés Louis ? » demanda-t-il. « Oui, » répondit le guichetier. « Frère de la loge américaine ? » ?»« Oui. » »« Vous avez été placé ici, il y a 8 jours, par une main mystérieuse pour y accomplir une œuvre inconnue ? » ?»« Oui. » »« Vous êtes prêt à accomplir cette œuvre ? » ?»« Je suis prêt. » Vous devez recevoir les ordres d'un homme, oui, du Messie. À quoi devez-vous reconnaître cet homme? À trois lettres brodées sur un plastron. Je suis cet homme, et voici les trois lettres. Et à ces mots, le visiteur ouvrit son jabot de dentelle et sur sa poitrine montra brodées ces trois lettres dont nous avons déjà dans le cours de cette histoire et plus d'une fois eu l'occasion de remarquer l'influence LPD. Maître, dit le geôlier en s'inclinant, je suis à vos ordres. Bien, ouvrez-moi le cachot de monsieur de Favras et tenez-vous prêt à obéir. Le geôlier s'inclina sans répondre, passa devant pour éclairer la route, et s'arrêtant devant la porte basse, « C'est ici, » murmura-t-il. L'inconnu fit un signe de la tête, la clé introduite dans la serrure grinça deux fois, et la porte s'ouvrit. Tout en prenant vis-à-vis du prisonnier les plus rigoureuses mesures de sûreté, jusqu'à le mettre dans un cachot enterré de 20 pieds sous le sol, on avait eu quelques attentions pour sa qualité. Il avait un lit propre et des draps blancs. Près de ce lit était une table chargée de plusieurs livres et portant de l'encre, des plumes et du papier, destinée sans doute à préparer un mémoire de défense. Une lampe éteinte dominait le tout. Dans un coin brillaient, sur une seconde table, des ustensiles de toilette tirés d'un élégant nécessaire aux armes du marquis. Appliquée à la muraille, une petite glace sortait du même nécessaire. Monsieur de Favras dormait si profondément que la porte s'ouvrit, que l'inconnu s'approcha de lui, que le geôlier posa la seconde lampe près de la première et sortit sur un geste du visiteur sans que le bruit et le mouvement qui avaient été faits puissent le tirer de son sommeil. L'inconnu considéra un instant cet homme endormi avec un sentiment de profonde mélancolie. Puis, comme s'il se fût rappelé que le temps était précieux, quelque regret qu'il parut avoir de troubler son bon repos, il lui posa la main sur l'épaule. Le prisonnier tressaillit et se retourna vivement, les yeux grands ouverts, comme font d'habitude ceux qui se sont endormis, s'attendant à être réveillés par une mauvaise nouvelle. « Tranquillisez-vous, monsieur de Favras, dit l'inconnu, c'est un ami. » Monsieur de Favras regarda un instant le visiteur nocturne avec un air de doute qui exprimait son étonnement qu'un ami le vînt chercher à 18 ou 20 pieds au-dessous du sol. Puis, tout à coup, rappelant ses souvenirs, « Ah, dit-il, monsieur le baron Zanon !»« Moi-même, cher marquis !» Favras jeta en souriant un regard autour de lui et, montrant du doigt au baron un escabeau libre de tout livre et de tout vêtement, « Donnez-vous la peine de vous asseoir, » lui dit-il. « Mon cher marquis, » dit le baron, « je viens vous proposer une chose qui n'admet point une longue discussion, et puis nous n'avons pas de temps à perdre. « Que venez-vous me proposer, mon cher monsieur? J'espère que ce n'est pas un emprunt. « Pourquoi cela ? Parce que les garanties que j'aurai à vous donner me paraissent médiocrement sûres. « Ce ne serait point de raison avec moi, marquis, et je serais tout prêt, au contraire, à vous offrir 1 million. »« À moi, » dit Favras en souriant. « À vous, oui, mais comme ce serait à des conditions que vous n'accepteriez pas, je ne vous ferais même pas cette offre. » »« Alors, puisque vous m'avez prévenu que vous étiez pressé, mon cher baron, venez au fait. Vous savez que c'est demain qu'on vous juge, marquis. » « Oui, j'ai entendu dire quelque chose comme ça, » répondit Favras. « Vous savez que les juges devant lesquels vous paraissez sont les mêmes qui ont acquitté Augéard et Bézenval. »« Oui, vous savez que l'un et l'autre n'ont été acquittés que par l'intervention toute-puissante de la cour. » »« Oui, » répondit pour la troisième fois Favras, sans que sa voix eût subi la moindre altération dans ses trois réponses. « Vous espérez sans doute que la cour fera pour vous ce qu'elle a fait pour vos devanciers. Ceux avec lesquels j'ai eu l'honneur d'être en relation pour l'entreprise qui m'a conduite ici savent ce qu'ils doivent faire à mon égard, monsieur le baron. Ce qu'ils feront sera bien fait. Ils ont déjà pris leur parti à cet égard, monsieur le marquis, et je puis vous instruire de ce qu'ils vous ont fait. » Favras ne témoigna aucune curiosité de le savoir. « Monsieur, » continua le visiteur, « s'est présenté à l'hôtel de ville et a déclaré qu'il vous connaissait à peine, qu'en 1772 vous étiez entré dans ses gardes suisses que vous étiez sorti en 1775 et que, depuis cette époque, il ne vous avait pas vu. » Favra s'inclina la tête en signe d'adhésion. « Quant au roi, non seulement il ne pense plus à fuir, mais encore il s'est, le 4 du courant, rallié à l'Assemblée nationale et a juré la Constitution. » Un sourire passa sur les lèvres de Favras. « Vous doutez ?» demanda le baron. « Je ne dis point cela, » répondit Favras. « Ainsi, vous le voyez, marquis, il ne faut pas compter sur monsieur, il ne faut pas compter sur le roi. Au fait, monsieur le baron, vous allez donc passer devant vos juges. Vous m'avez fait l'honneur de me le dire. Vous serez condamné. C'est probable. À mort. C'est possible. » Favras s'inclina en homme prêt à recevoir, quel qu'il soit, le coup qui doit le frapper. « Mais, fit le baron, savez-vous à quelle mort, mon cher marquis ?»« Il y a deux morts, mon cher baron. »« Oh, il y en a dix, il y a le pal, l'écartèlement, le lacet, la roue, la potence, la terre tranchée. »« Ou plutôt, la semaine dernière encore, il y avait toutes ces morts-là. »« Aujourd'hui, comme vous dites, il n'y en a plus qu'une, le gibet. »« Le gibet ?»« Oui. » L'Assemblée nationale, après avoir proclamé l'égalité devant la loi, a trouvé juste de proclamer l'égalité devant la mort. Maintenant, nobles et vilains sortent de ce monde par la même porte. Ils sont pendus, marquis. Ah, fit Favras. Condamné à mort, vous serez pendu. Chose fort triste pour un gentilhomme qui ne craint pas la mort, j'en suis sûr, mais qui répugne à la potence. « Ah ça, monsieur le baron, dit Favras, êtes-vous venu pour m'annoncer seulement toutes ces bonnes nouvelles, ou vous reste-t-il encore quelque chose de mieux à me dire ?»« Je suis venu pour vous annoncer que tout est prêt pour votre évasion, et pour vous dire que dans 10 minutes, si vous le voulez, vous pouvez être hors de votre prison, et dans 24 heures hors de France. » Favras réfléchit un instant, sans que l'offre que venait de lui faire le baron parût lui causer aucune émotion. Puis, s'adressant à son interlocuteur, « Cette offre me vient-elle du roi ou de son Altesse royale » demanda-t-il. « Non, monsieur, elle vient de moi. » Favras regarda le baron. « De vous, monsieur, dit-il, et pourquoi de vous ?»« À cause de l'intérêt que je vous porte, marquis. »« Et quel intérêt pouvez-vous me porter, monsieur, dit Favras, vous m'avez vu 2 fois. » On n'a pas besoin de voir un homme 2 fois pour le connaître, mon cher marquis. Or, les vrais gentilshommes sont rares, et j'en veux conserver un, je ne dirais pas à la France, mais à l'humanité. Vous n'avez pas d'autre raison? J'ai celle-ci, monsieur, qu'ayant négocié avec vous un emprunt de 2 millions, et vous ayant versé l'argent, je vous ai donné le moyen de marcher plus avant dans votre complot, découvert aujourd'hui, et par conséquent, j'ai involontairement contribué à votre mort. » Favras sourit. « Si vous n'avez commis d'autre crime que celui-là, dormez tranquille, dit Favras, je vous absous. »« Comment ? S'écria le baron, vous refusez de fuir ?» Favras lui tendit la main. « Je vous remercie du plus profond de mon cœur, monsieur le baron, » répondit-il. « Je vous remercie au nom de ma femme et de mes enfants, mais je refuse. » « Parce que vous croyez peut-être nos mesures mal prises, marquis, et que vous craignez qu'une tentative d'évasion avortée n'aggrave votre affaire. » « Je crois, monsieur, que vous êtes un homme prudent, et, je dirais plus, aventureux, puisque vous venez vous-même me proposer une évasion. Mais, je vous le répète, je ne veux pas fuir. » « Sans doute, monsieur, craignez-vous que, forcé de sortir de France, vous n'y laissiez votre femme et vos enfants dans la misère. J'ai prévu le cas, monsieur, et puis vous offrir ce portefeuille dans lequel il y a 100 000 francs en billets de caisse. » Favras regarda le baron avec une espèce d'admiration. Puis, secouant la tête, « Ce n'est pas cela, monsieur, dit-il, sur votre parole, et sans que vous eussiez besoin de me remettre ce portefeuille, j'aurais quitté la France si mon intention avait été de fuir, mais encore une fois, ma résolution est prise, je ne fuirai pas. » Le baron regarda celui qui lui faisait ce refus comme s'il eût douté qu'il possédât toute sa raison. « Cela vous étonne, monsieur, dit Favras avec une singulière sérénité, et vous vous demandez, sans oser me le demander à moi-même, d'où me vient cette étrange résolution d'aller jusqu'au bout. » et de mourir s'il le faut, de quelque mort que ce soit. Je vous l'avoue, monsieur. Eh bien, je vais vous le dire. Je suis royaliste, monsieur, mais non pas à la manière de ceux qui émigrent à l'étranger ou qui dissimulent à Paris. Mon opinion, ce n'est point un fait reposant sur un calcul d'intérêt, c'est un culte, une croyance, une religion, monsieur. Et les rois ne sont pas autre chose pour moi que ce que serait un archevêque ou un pape, c'est-à-dire les représentants visibles de cette religion dont je vous parlais tout à l'heure. Si je fuis, on supposera que c'est ou le roi ou monsieur qui m'ont fait fuir. Or, s'ils m'ont fait fuir, ils sont complices. Et monsieur qui est venu me renier à la tribune, le roi qui a feint de ne pas me connaître, sont atteints du coup qui frappe dans le vide. Les religions tombent, monsieur le baron, quand elles n'ont plus de martyrs. Eh bien moi, je relèverai la mienne en mourant pour elle. Ce sera un reproche donné au passé, un avertissement offert à l'avenir. Mais pensez-vous au genre de mort qui vous attend, marquis? Oh, plus la mort sera infâme, monsieur, plus le sacrifice sera méritoire. Le Christ est mort sur une croix, entre deux larrons. Je comprendrais cela, monsieur, dit le baron, si votre mort pouvait avoir pour la royauté l'influence que celle du Christ eut pour le monde. Mais les péchés des rois sont tels, marquis, que j'ai bien peur non seulement que le sang d'un gentilhomme, mais encore que celui d'un roi ne suffise pas à les racheter. Il en sera ce qu'il plaira à Dieu, monsieur le baron, mais dans cette époque d'irrésolution et de doute où tant de gens manquent à leurs devoirs, je mourrai avec la consolation d'avoir fait le mien. « Eh non, monsieur, dit le baron d'un air d'impatience, vous mourrez tout simplement avec le regret d'être mort sans aucune utilité. Quand le soldat désarmé ne peut pas fuir, quand il attend l'ennemi, quand il brave la mort, quand il la reçoit, il sait parfaitement que cette mort est inutile. Seulement, il s'est dit que la fuite serait honteuse et il a mieux aimé mourir. « Monsieur, dit le baron, je ne me tiens pas pour battu. » Il tira sa montre, elle marquait 3 heures du matin. « Nous avons encore 1 heure, continua-t-il. Je vais m'asseoir à cette table et lire 1 demi-heure. Pendant ce temps, réfléchissez. Dans 1 demi-heure, vous me rendrez une réponse définitive. » Et prenant une chaise, il s'assit devant la table, le dos tourné au prisonnier, ouvrit un livre et lut. « Bonne nuit, monsieur, dit Favras. » Et il se retourna du côté du mur, sans doute pour réfléchir avec moins de distraction. Le lecteur tira 2 ou 3 fois sa montre de son gousset, plus impatient que le prisonnier, puis, la demi-heure écoulée, il se leva et s'approcha du lit. Mais, s'il eut beau attendre, Favras ne se retourna point. Alors le baron se pencha sur lui, et, à sa respiration régulière et calme, il s'aperçut que le prisonnier dormait. « Allons, dit-il, se parlant à lui-même, je suis battu, mais le jugement n'est point encore prononcé, peut-être doute-t-il encore. » Et, ne voulant pas réveiller le malheureux qu'un si long et si profond sommeil attendait dans quelques jours, il prit la plume et écrivit sur une feuille de papier blanc « Quand le jugement sera prononcé, quand monsieur de Favras sera condamné à mort, quand il n'aura plus d'espoir ni dans ses juges, ni sans monsieur, ni dans le roi, s'il change d'avis, il n'aura qu'à appeler le guichetier Louis et lui dire « Je suis décidé à fuir » et l'on trouvera moyen d'organiser sa fuite. Quand monsieur de Favras sera dans le tombereau fatal, quand monsieur de Favras fera amende honorable devant Notre-Dame, quand monsieur de Favras traversera, pieds nus et les mains liées, le court espace qui sépare les marches de l'hôtel de ville, où il aurait été faire son testament de mort, du gibet dressé sur la grève, il n'aura qu'à prononcer à haute voix ces paroles « Je veux être sauvé » et il sera sauvé. Signé Cagliostro. Sur quoi le visiteur prit la lampe, s'approcha une seconde fois du prisonnier pour s'assurer s'il était réveillé, et voyant qu'il dormait toujours, il regagna, non sans se retourner plusieurs fois, la porte de la cellule, derrière laquelle, avec l'impassible résignation de ces adeptes prêts à tous les sacrifices pour arriver à l'accomplissement du grand œuvre qu'ils avaient entrepris, se tenait, debout et immobile, le guichetier Louis. « Eh bien, maître, demanda celui-ci, que dois-je faire ?»« Rester dans la prison et obéir à tout ce que te commandera monsieur de Favras. » Le guichetier s'inclina, reprit la lampe des mains de Cagliostro et marcha respectueusement devant lui comme un valet qui éclaire son maître.